Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de l'industrie automobile en première heure d'émission. En deuxième heure, je vais recevoir le comédien Denis Bouchard qui a fait un périple assez incroyable. Il va nous raconter ses souvenirs de voyage. Et l'humoriste Jérémy Demy sera avec nous. On va parler de notre capacité à être un peu plus fin avec nous-mêmes. Jérémy, en tout cas, a développé toute une réflexion là-dessus. Je pense que ça va être très chouette de l'entendre nous expliquer comment apprendre à être plus fin, plus gentil avec soi-même. Tu sais, il me semble que c'est la période pour ça, pour se donner un petit break, là. Première heure d'émission, on a beaucoup de choses à dire sur l'industrie automobile. Vous serez d'accord avec moi pour dire que 2018, ça a vraiment été une année charnière à plusieurs points pour l'industrie auto. Évidemment, il y a eu l'annonce de la restructuration chez GM qui a été un gros coup là, pour les travailleurs, un coup dur. On avait vécu ça, nous, au Québec, il y a plusieurs années. Ben là, ça a été autour des Ontariens. Les Américains aussi, hein, faut pas oublier que les usines aux États-Unis aussi, il n'y a pas qu'ici en Ontario où on perd des postes. Aux États-Unis aussi, il y a des usines qui ferment. En gros, c'est ce courant de restructuration dans l'industrie d'automobile, de repositionnement, je pense que c'est le mot, parce que plusieurs marques, plusieurs constructeurs ont annoncé leur intention de ne plus fabriquer de voitures à essence. On pense à Ford, on pense à Volvo, on pense à GM aussi. En même temps, quand on regarde dans les faits, et c'est là où interviennent mes invités de ce matin, on dirait qu'on parle des deux côtés de la bouche, parce qu'en même temps, on dit « on va aller vers la voiture électrique », mais finalement, c'est pas tellement là qu'on va dans les faits. Antoine Joubert est avec nous. Salut Antoine.
Salut.
Chroniqueur auto au Guide de l'auto. Benoît Charrette, éditeur-rédacteur en chef de l'annuel de l'auto. Merci Benoît d'être là.
Ça fait plaisir.
C'est un peu ça finalement. On dirait que, Antoine, je commence avec toi, on dirait qu'il y a comme une espèce de discours. On nous dit une chose, mais dans les faits, on fait autre chose.
Absolument. Ben là, c'est sûr que le cas de GM est celui qui est le plus récent, le plus frais à notre mémoire. On parle d'autopartage avec la plateforme Maven chez GM, c'est-à-dire qu'on met des voitures sur la route qui sont en libre-service, un peu comme Car2Go qu'on connaît à Montréal. Si on fait ça dans 20 villes américaines, on le fait à Toronto, c'est pas encore implanté à Montréal. On annonce aussi l'arrivée de nouveaux véhicules électriques ou hybrides à autonomie prolongée d'ici peu. Et là, on nous annonce qu'on coupe près de 15 000 postes en Amérique du Nord. On ferme une usine en Ontario, mais aussi 4 usines du côté des États-Unis. Mm-hmm. Et quand on analyse les usines qu'on ferme, on comprend que ce sont toutes des usines qui fabriquent des voitures. Des voitures
la
qui
Fiesta,
se vendent.
Par exemple. Ouais.
Ben, chez GM, en fait, le gros coup, c'est la Cruze, qu'on ne pensait pas voir disparaître. La Volt passe aussi au bistouri, mais va être remplacée par autre chose. Mais les Buick LaCrosse, Chevrolet Impala, tout ça, ça disparaît. Et parallèlement, on présente un nouveau Chevrolet Blazer qui est un nouvel utilitaire. Mmh. On annonce l'arrivée d'une grande famille de nouveaux VUS pleine grandeur. Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Cadillac Escalade à moteur V8. On annonce aussi l'arrivée...
V8 de 400 chevaux.
Ah oui. Là, on parle aussi d'un nouveau camion HD++ qu'on a présenté des images cette semaine. Le nouveau camion Chevrolet Silverado HD 2020 va arriver bientôt.
Qui ressemble à quoi?
C'est un monstre.
C'est un monstre.
Imaginez, c'est gigantesque.
Ben, Ford, quand ils ont sorti le nouveau Super Duty, c'est un autobus. Là. C'est énorme.
C'est des camions qui sont capables de remorquer des villes. C'est des bêtes de puissance.
On va approcher les 1000 livres pied de couple. On s'en vient dans des grosses affaires.
Il faut comprendre que ces camions-là, là, c'est tellement payant à fabriquer pour les constructeurs américains.
Pourquoi c'est payant?
C'est rentable.
Parce qu'on en vend tellement que tu fabriques un Chevrolet.
C'est ça que les gens veulent.
Un Chevrolet Silverado, là, ça coûte pas plus cher quand tu regardes la quantité qui est fabriquée à produire qu'une Chevrolet Cruze. La Chevrolet Cruze, on la vend à 25 000, on la finance à 0 % d'intérêt, on met des incitatifs dessus. Les pick-up pleine grandeur, ça se vend tout seul. Et ça se vend 2-3 fois le prix.
Exact.
Donc, c'est pas compliqué. Là.
Parce que quand tu dis parler des deux bords de la bouche, c'est vrai que ça se fait comme ça. C'est que là, on doit investir des sommes colossales pour préparer l'avenir, pour amener des véhicules verts, véhicules électriques. Ça coûte des milliards de dollars aux compagnies. Donc, pour financer ces recherches-là, on y va du côté des véhicules qui se vendent et on fait beaucoup de profits avec les utilitaires, les camions. On prend ces profits-là et on développe des programmes verts. Donc, on veut pas arrêter de vendre des camions parce que c'est vraiment des machines à imprimer de l'argent. Et cet argent-là va servir au virage qu'on fait. Puis tu parlais de GM tantôt. Ouais. GM est en restructuration parce qu'il y a 10 ans, rappelez-vous, on s'est fait un petit peu prendre les culottes à terre. Il y a eu une récession aux États-Unis. On s'est placé sous la loi de la protection des faillites du côté de GM et de Chrysler. Et là, je pense qu'on regarde ce qui s'en vient. Il y a beaucoup, qu'il y a beaucoup de signes inflationnistes aux États-Unis et on voit venir une récession. Et on veut pas se faire prendre les culottes à terre.
Mais la question, c'est est-ce que Chrysler la voit venir? Parce que GM l'a réagi, écoute, on le sait, Chrysler, mais Chrysler...
Ils ont même pas les moyens de se réorganiser, Chrysler.
C'est ça,
le problème.
Chrysler, là, c'est inquiétant. Oh, oui, ah, Chrysler, ouais? C'est vraiment inquiétant, parce que pour l'instant, là, chez Chrysler, c'est un V6 Pentastop, un V8 Hemi qui se vend.
Oh, oui, puis c'est tout. Puis c'est tout, là.
Il n'y a pas d'autre chose.
C'est parce que là, ce qu'on attend, puis les rumeurs sont fortes à ce propos-là, on attend que la compagnie soit vraiment pris les culottes à terre. Écoutez, j'arrive. La semaine passée, j'étais à un lancement Jeep à Moab où on a essayé des véhicules hors route. 80% de tous les véhicules vendus chez FCA, c'est des Jeep. Il se vend. L'autre petit pourcentage qui est à 15%, c'est Ram. Puis il reste 5% Dodge, puis 0,02% à peu près pour le Fiat. Mais c'est Jeep qui traîne littéralement la compagnie en ce moment.
Ben, il faut comprendre que FCA, toutes les marques italiennes, ça roule à perte. C'est pas compliqué.
Oh oui,
là.
C'est clair.
Excluons Ferrari, là. Mais je veux dire, Maserati, Fiat, Alfa Romeo, ça, c'est sûr que ça roule à perte. La marque Chrysler vit sur un respirateur artificiel. Ouais. Dodge, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, oui. Mais les deux forts de la compagnie, c'est Ram et Jeep. C'est pas plus compliqué que
c'est
ça.
C'est tout ce qui se vend. Fait, puis on n'a pas les
moyens
de renouveler.
Mais êtes-vous en train de dire que Chrysler serait sur le bord de la faillite? Ou qu'il y aurait quelqu'un qui...
Non, c'est pas sur le bord de la faillite, non. Mais s'il arrive un autre coup comme il est arrivé en 2009,
ils passeront pas au travers. Non, ça c'est clair.
Pas
alors
lui.
Là, on est en train, il y a eu des rumeurs que Hyundai sera prêt à racheter, acheteurs. Ils vont attendre qu'il y ait un prix intéressant, ils vont probablement se débarrasser de tout ce qui
combien
est pas payant.
Combien ça vaut? Mais ça peut valoir.
Oh, Seigneur, combien
Moi, je vais donner 500 piastres en tout cas.
Ouais, moi, je vais mettre l'autre 500. Moi, correct. Antoine, puis moi...
Mais je suis pas évidemment un expert pour te dire combien ça vaut une entreprise automobile comme celle-là.
On est dans
les
milliards.
Mais on peut
là,
dire une
sûr.
Chose, par exemple. La marque Jeep est une des 10 marques les mieux reçues au monde.
Perçues au niveau des consommateurs.
Avec Coca-Cola, marque qui est très...
Qui est reconnue au niveau de la force de la marque. Ouais. Au niveau de la force de la marque. Là. Tu reconnais, ben oui, il y a des gens... Mais ouais, on s'entend que ce n'est pas des véhicules...
Non,
écoute, c'est des véhicules la qualité de moyenne gamme, on peut-tu le dire?
De moyenne gamme
quand
élevée.
Quand on prend
un
Grand Cherokee à 66 000, là, tu commences à être assez haut de gamme. Là.
Puis là, on s'en
dans
vient avec
prix,
un...
Dans le prix, mais dans la qualité, est-ce que ça, ça vaut
ça? Ça s'est amélioré. Honnêtement, j'ai roulé les Trailhawk, là, qui sont les versions mieux préparées pour le hors-route. Puis honnêtement, la qualité est très bonne.
Mais on n'a plus de technologie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle technologie.
Exact.
Là, on va débarquer prochainement avec un nouveau Grand Cherokee, avec un nouveau Grand Wagoneer. C'est pas confirmé qu'on l'appelle comme ça, mais bref, ça va être un Grand Cherokee allongé, 7 passagers.
Avec une troisième rangée de sièges.
Êtes-vous sérieux?
Ben oui, c'est ça qui vend. C'est ça qui vend. Regardez ce qu'on lance. Hyundai qui arrive avec un nouveau Palisade, 7 passagers. Kia qui va arriver avec un Telluride, gros VUS, 7 passagers. Subaru qui vient de lancer un VUS, 7 passagers. Tout le monde s'en va là. Et les petites voitures disparaissent une après l'autre.
Ouais.
Mais il y a quand même des constructeurs, puis ça, il faut quand même le mentionner, qui profitent du fait que les Américains abandonnent la petite voiture pour pousser la petite voiture. Moi, j'ai regardé récemment à Los Angeles, Benoît et moi, on était sur place. Toyota arrive avec une nouvelle génération de Corolla, incluant une hybride qui est extrêmement convaincante.
Mazda 3.
Écoute, la nouvelle Mazda 3 avec la technologie qu'on intègre là-dedans, Skyactiv X, ça va rouler à 5 litres au 100 avec 180 chevaux et la traction intégrale.
5 litres au 100?
On s'en va là. On est à un moteur qui a un taux de compression de 16:1 qui roule pratiquement comme un diesel. Ça me prouve une chose, c'est que le moteur à essence thermique n'est pas mort.
Non.
Qu'il y a encore de belles grandes améliorations à faire. Et Mazda, à défaut d'avoir une technologie électrique ou hybride dans l'immédiat, mais propose des moteurs qui sont éco-intéressants. Là.
On fait mieux avec la technologie qu'on a. Mazda vont s'associer à Toyota pour des technologies vertes. C'est déjà annoncé. On va avoir des premiers modèles probablement d'ici un an ou deux.
Il n'y a rien de confirmé, par exemple.
Non, il n'y a rien de confirmé en termes de modèles, mais ils ont confirmé leur partenariat pour des technologies vertes.
Ouais.
Parce que ça coûte des sous développer de la technologie verte.
Bien, vraiment, ben c'est sûr.
Puis c'est pour ça qu'on continue de vendre des camions, parce que c'est payant. Puis cet argent-là, ben on l'a... transfert dans des recherches pour amener des nouvelles technologies.
Mais c'est fou quand même. Je vous écoute là-dessus, puis tout ce qu'on a dit cette année, on fait un peu un bilan là, de l'industrie de l'auto, puis on peut pas parler de voitures, de véhicules à essence, de voitures électriques, sans parler quand même de tout ce qui se passe dans l'environnement. 2018 a été aussi charnière en matière de conscientisation par rapport à l'environnement, à nos besoins, ce besoin avide qu'on a de quasiment boire du pétrole. Puis là, ben vous me dites, ben là, de plus en plus, ils nous disent qu'ils s'en vont vers l'électrique, mais dans le fond, ils font juste des camions à 7 passagers.
On est dans une période de
transition. Parce que c'est ça que le monde achète, fait que...
On est dans une période de transition. Puis faut regarder.
On est loin d'être environnementaliste dans notre approche.
Il faut aussi regarder ce que j'appelle le fait québécois. Au Québec, les gens sont sensibilisés, sont prêts à acheter du véhicule électrique, mais allez vous promener aux États-Unis, là, dans les États du Sud, dans l'Ouest canadien. Vous parlez de véhicules électriques, puis tout le monde vous regarde avec un drôle d'air. Là. Eux autres, là-bas, là, il y a zéro intérêt pour ça. Là, tu vas dans des concessionnaires en Alberta, en Saskatchewan, il n'y a pas ça, des véhicules électriques.
Non, les véhicules roulent 24 heures sur 24, puis c'est pas compliqué. Là, c'est
Parce que c'est relié au prix de l'essence aussi.
Une camionnette Ford qui roule à 13 litres au 100 au Texas, c'est super économique.
Oui, c'est une super.
On s'entend, là. C'est super économique. C'est un
F-150. Parce que l'essence coûte pas cher, c'est ça que tu veux dire?
Bien, pas juste ça, parce que, là-bas, il y a de l'espace, il y a de la place. L'environnement, c'est pas un problème. Les gens ne le perçoivent pas comme ça. C'est pas dans la culture. Puis, je veux dire, une mère de famille qui, ici, s'achèterait une, un Honda HR-V, par exemple, bien, là-bas, elle roule en F-150. Il n'est pas question d'acheter quelque chose de plus petit. C'est inconcevable.
En fait, l'Américain...
Parce que tout le monde en a aussi. Parce il y a comme un effet d'entraînement, effet de groupe. Là.
L'approche n'est pas la même. Aux États-Unis, la mentalité est que tu achètes le plus gros possible avec l'argent que tu as dans tes poches. Fait qu'un auto à 25 000, tu vas dire, OK, qu'est-ce que je peux avoir de plus gros pour 25 000 ici? C'est pas ça qu'on regarde.
C'est l'équipement.
On regarde l'équipement. Fait que ça te fait rien d'avoir une petite auto à 25 000 bien équipée. Un Américain va s'acheter un F-150 tout nu, rien dedans, mais pour 25 000, c'est ça qu'il peut avoir de plus gros. Alors, c'est complètement...
Il veut une grosse affaire dans son entrée de garage.
Oui, je vais te donner un exemple bien simple. Demain matin, tu as 30 000 $ dans tes poches, OK? Disons 26 000 $ dans tes poches. Là, Ram annonce un Ram Quad Cab V6 SXT en grosse promotion avec 18 000 $ de rabais, puis le camion coûte 26 000, 27 000. À côté de ça, tu as un concessionnaire Kia qui te vend une Rio SX en cuir, volant chauffant, siège chauffant, tout équipé, une voiture qui a beaucoup de technologie dedans, et le même prix. Demande au gars du Texas qui va acheter entre la Rio à 26 000 puis le Ram. Je sais que c'est deux extrêmes, là. Mais je veux dire...
Ben, sérieux, tu me demandes, là? Même au Québec, je suis pas sûr que je... Tu sais, j'ai quand même signé le pacte, là. Fait qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais je pourrais être tenté, si je suis honnête, je pourrais être tenté de dire que je prendrais le RAM.
Je trouve ça intéressant que tu parles du pacte, parce
ben
que...
Oui. Là, tu signes,
j'ai
toi,
eu
mon
une
enfant,
grosse
là?
Discussion avec plusieurs personnes là-dessus. Mm-hmm. Et moi, j'ai pris la décision, pour l'instant, de ne pas le signer. Mm. Parce que si je signe ça...
Mon Dieu, toute la toile va te tomber dessus.
Je me fais mitrailler. Je suis propriétaire d'une Mustang, je suis propriétaire d'une AMC des années 70. Si Yvon Deschamps, qui a une Bentley, qui a 60 ans, se fait taper sur la tête...
Qui roule à peu près jamais,
parce qu'il y a une voiture qui roule deux fois par année. S'il y a des gens qui sont assez gnochons pour pas comprendre, pour pas faire la part des choses, je me dis que moi, c'est sûr, je me fais mitrailler sur la place.
C'est sûr.
Je veux dire, t'as un voyons, cherchons un nom, Guillaume Lemaitre-Vierge, qui s'est fait mitrailler pour ça. Parce que monsieur
Gino Chouinard qui fait des pubs aussi là, de, vous avez vu ça là?
Pub automobile.
Monsieur Gino
Mais une automobile, je me permets,
je sais pas
de
s'il s'est fait écœurer Gino aussi.
Je me permets de citer
Patrick
Lagacé.
Mais lui, il est fin. Il vend du chocolat, puis le monde l'aime.
C'est sûr.
Pas pareil, Gino Chouinard.
Mais je te cite Patrick Lagacé, que j'ai entendu dire il y a deux semaines, qu'il mentionnait que l'automobile s'est rendu comme la cigarette.
Oui.
C'est un objet néfaste. Mm-hmm. Je veux dire, comme j'expliquais à Normand, ton recherchiste, c'est la première fois cette année où je me sens mal d'exercer mon métier, où je commence à me demander si... Est-ce que le travail qu'on fait est encore pertinent? Est-ce que je dois me sentir coupable d'aimer l'automobile? Tu sais, c'en est à ce point-là, parce que tout le monde te fait sentir mal d'avoir un moteur à essence chez vous.
T'as raison.
J'en ai huit, moi. Puis en plus, il n'y en a pas un qui ne pollue pas parce que c'est toutes des vieilles affaires. Fait que je me sens comment, moi, dans cette situation-là? Faut-tu que je me sente mal d'être un amateur de voiture? Faut-tu obligatoirement que je devienne un passionné de Mitsubishi et Miev puis de Nissan Leaf?
Que tu n'aimes pas particulièrement.
Ben, ça va bien, le Nissan Leaf. Puis c'est un produit que je vais recommander.
Mais la Miev, tu m'as déjà dit des affaires pas fines.
Non, la Miev, non. C'est...
Benoît aussi a parlé contre la Miev.
Oui, ah, j'en suis absolument conscient.
Je te dirais que la plupart des gens, ouais. même ceux qui en ont acheté, doivent en parler.
Toi, te sens-tu coupable, Benoît?
Ben, je me sens coupable.
Puis en plus, vous roulez des voitures, mais vous prenez souvent l'avion, les boys, pour aller à tous vos salons de l'auto.
Moi, c'était mon deuxième point.
Ben oui,
écoute, moi, je suis dans un avion.
Tu reviens d'avion, là?
Je suis à San Diego hier. Je suis en avion aux deux semaines. En moyenne, dans l'année, à peu près aux deux semaines, je suis quelque part. Fait que juste là, il faudrait que je plante une forêt et demie par année, au minimum, pour compenser ce que je prends. Puis comme Antoine, on a des autos chaque semaine, de tout acabit, là. Je suis en Ram Rebels cette semaine avec un V8. Là. Alors, je suis un très mauvais exemple.
Où est-ce que tu t'es garé, ici, ben, auto?
Il y a ses quatre flasheurs en avant du building, d'ailleurs. Le moteur tourne.
J'ai trouvé pas trop loin, là, mais effectivement, en vide, c'est un peu cauchemardesque. C'est sûr qu'on exerce notre métier. Bon, je me sens pas mal, je me sens pas coupable, parce que, bon... On vit encore dans une société où les gens ont besoin de rouler, ont besoin de véhicules.
Ben oui.
On modifie évidemment nos approches. Il y a plus de véhicules verts de disponibles. Mais je pense qu'on est dans une période de transition. Il va y avoir quelques années avant qu'on passe la main à gauche. Mais...
C'est pour ça que je disais 2018, c'est une année charnière.
Oh, une année, oui.
Vraiment, vraiment. On va voir ce que les gens en pensent d'ailleurs de cette année. Vraiment, 2018, ça a été une année très occupée en matière de voitures automobiles, de véhicules utilitaires, de grosses puissances de moteurs. Vous voyez, on parle encore d'une
V8. Première fois, le marché ralentit.
Repart pas, ça va à pause. Repart pas la discussion. On revient à pause.
OK, au revoir.
Puis on continue tout de suite après. Là, j'allais donner notre numéro de téléphone, 514-790-9850. Et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. On vous écoute. Si vous avez des questions pour nos spécialistes Benoît et Antoine, ne vous gênez pas. Ça a l'air qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous parlent de la Hyundai Kona. Il y a Claude, entre autres, qui dit « Quand est-ce qu'on va savoir le prix de la fameuse Kona et pourquoi Hyundai en fait un si grand mystère, Benoît Charrette? »
Bonne question. Je pense qu'on est en train de négocier les prix avec la Corée, là, parce que les prix varient d'un pays à l'autre selon ce que tu achètes, ton quota. Puis ça arrive au premier trimestre de 2019. On va finir par avoir un prix bien vite.
Ça, c'est l'électrique, là?
C'est l'électrique.
415 km. En fait, officiellement, est arrivé en novembre, mais ça rentre au compte-gouttes.
Ah oui, il y en a comme un par concessionnaire.
Alain veut justement parler de ce véhicule-là. Bonjour, Alain.
Bonjour.
On vous écoute?
Moi, j'aimerais ça m'acheter une Kona électrique. J'ai entendu parler, puis ça allait bien.
Oui.
Excepté que j'aimerais savoir sur les sites Internet, je viens pas à vous de trouver, est-ce qu'elle va sortir quatre roues motrices?
Non. Ça va être traction seulement.
Ah, ça, on n'aime pas seulement. Ça, nous autres, là. On n'aime pas
traction
ça, là.
Traction seulement. Non. Ouais.
Moi, je reste dans le canton de l'Est, puis ben ça me prend absolument quatre roues motrices, fait que j'aurais pas le choix d'aller à gaz ou
m'en prendre en plus. Ben oui, moi, faut que je monte la côte ici, Robert Bourassa, tous les matins.
les options les plus intéressantes pour l'heure, dans ce créneau-là, tu as le Mitsubishi Outlander PHEV, qui est un hybride enfichable, et tu as le RAV4 hybride qui va débarquer prochainement. Et moi, j'ai le feeling que ce RAV4
hybride.
Il existe déjà, en fait.
Ouais.
Mais la nouvelle génération améliorée que j'ai conduite, moi, m'a vraiment impressionné.
Ouais, bien
et c'est un véhicule qui va rouler entre 6 et 7 litres au 100 au maximum, avec la traction intégrale. Et sans arbre de transmission, parce que c'est un moteur électrique situé sur l'essieu arrière.
Exact.
Donc, il n'est pas plus léger. Ça fonctionne sur demande. Moi, j'ai vraiment trouvé ça efficace comme véhicule.
Et sont de... Oui, allez-y, Alain.
Elle fait 200 km et plus par jour.
Par semaine ou par jour?
Par jour, OK. 200 km et plus par semaine.
Mon Dieu.
Moi, je vous dirais, en partant, le Kona électrique, à ce moment-là, c'est pas une bonne idée. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est que l'autonomie annoncée est à 400 km. Disons qu'on est à 350 dans le vrai monde, pour être optimiste.
Et l'hiver?
L'hiver, on est à 200.
Okay. Oh, peut-être pas tant que ça.
225.
Moi, j'irai à 250.
Là. Moi, je le vis. J'ai plein d'amis qui ont des voitures électriques présentement.
Et?
Tu coupes l'autonomie de minimum 40% en hiver.
Ah oui.
Alors, si tu as une autonomie qui est annoncée à 200, tu fais 120. On le voit, là. J'ai un ami proche qui a une e-Golf. Alors, c'est 120. Là, aujourd'hui, il fait moins de 17. La voiture a dormi dehors. Il a pris la voiture ce matin. C'était 121 km qui était affiché au compteur. C'est comme ça. pleinement rechargé.
Et avec des amis, hier, on parlait du cafouillage sur l'autoroute 13, vous en souvenez, l'année dernière?
Oui, cafouillage, le mot est poli.
Avec la fameuse tempête qui nous ont tombé dessus puis qu'on n'avait pas prévu. Avec, il y a quand même eu des morts, hein, on s'en souvient
absolument.
Et bref, sur la 13, on se disait, mon Dieu, les gens qui ont eu des véhicules électriques, là, ils ont dû paniquer. Tu sais, quand ça prend 10 heures avant de te sortir du trafic comme ça, là, qu'est-ce que tu fais quand tu as une voiture électrique?
Oui, mais là, on parle de l'apocalypse. Tu sais, je veux dire...
Non, c'est une tempête de neige.
Non, mais je sais, mais pour les gens qui étaient pris sur la 13, c'était l'apocalypse. Ouais. Tu peux même pas t'imaginer qu'en 2017, quelque chose comme ça peut arriver.
Au Québec, où on est supposé savoir comment ça marche.
Ça n'a pas de sens.
Merci, Alain. On a Jean-Paul. Vous êtes justement en voiture électrique, Jean-Paul.
Oui, exactement.
Étiez-vous sur la 13, vous, quand c'est arrivé, cette affaire-là?
Non, mais je ne serais pas resté. J'aurais eu des solutions rapides pour la 13, mais c'est pas ça qui est important. L'important, là, il faut se dire qu'au Québec, on est dans une situation unique à peu près au monde. On a le pétrole à peu près le plus cher d'Amérique, puis on a les coûts d'électricité les meilleurs marchés à peu près dans le monde occidental.
Mm-hmm.
Ça, c'est la première constatation.
C'est vrai.
Parce que quand on va à Chicago, là, des véhicules électriques, là, s'il y en a... Pendant deux semaines, j'en ai vu à peu près trois. Une couple de Tesla, puis une Volt, là.
Ouais. C'est peut-être la même que vous avez croisée trois fois.
Oui, peut-être. En tout cas, regarde, l'autre point important là, qu'il faut conscientiser les gens, c'est que dans un véhicule au pétrole, il y a 75% de l'énergie qu'on met dedans. Mettons, on met 100 piastres de gaz, il y a 75 piastres qui est gaspillé
en chaleur. Oui, absolument.
En chaleur, dans les freins, puis dans le radiateur. Tandis que dans un véhicule électrique, l'efficacité est 90%. Fait que quand on met une pièce d'électricité, là, ben pour 100 km, on fait 90% d'efficacité dans un véhicule électrique, parce que quand on freine, c'est récupéré pour...
Oh oui, absolument.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, il y a moins de pertes. Oh oui, vous avez absolument raison là-dessus. Puis là, on travaille sur des meilleures efficacités au niveau des véhicules à essence. On a formé, comme dans les hybrides, il y a des systèmes de récupération d'énergie pour aller dans les batteries. En fait, on essaye de maximiser l'efficacité, mais c'est sûr qu'un moteur à combustion interne, à la base, c'est pas efficace.
Mais j'ai quelque chose pour vous. Merci Jean-Paul. Raymond m'écrit, les réparations des véhicules hybrides ou électriques coûtent tellement cher. C'est tellement cher à faire réparer ces véhicules-là que l'économie d'essence y passe.
Ouais, mais faut faire attention.
Il dit, c'est pas du oui-dire, il dit, je le vis actuellement.
Oui, mais ça dépend. Il y a moins de pièces.
C'est ça.
Dans le cas d'une hybride, non. Mais dans le cas d'une 100% électrique, c'est sûr qu'il y a encore des systèmes de refroidissement, qu'il y a encore des freins, etc. Mais il y a moins de pièces. Il y a moins de pièces mécaniques, moins d'entretien à faire. C'est sûr que si le battery pack, en bon français, brise, là, ça coûte cher. Mais si vous dites, les risques sont pas plus élevés là-dessus que si un moteur à essence brise.
Parce qu'il y a peu de pièces dans un véhicule électrique comparativement à un moteur à essence. J'ai eu quelques cas où on a dit oui, j'ai remplacé les batteries. Dans le cas d'une Prius, je m'étais informé, c'est à peu près 3 500 $ si on remplace le
Lui, il semble dire que c'est fait demander pour une petite pièce qui était grosse comme un paquet de cigarettes, 5 800 $ chez le concessionnaire.
Là, il faudrait savoir c'est quoi, puis si le garagiste voulait l'arnaquer.
Ben, c'est peut-être plus ça, parce qu'il dit finalement, je suis allé faire réparer mon fusible de haut voltage ailleurs, ça m'a coûté 28 $.
Bon, alors c'est
non,
ça.
Non, bon, c'est ça.
Faut faire attention où on va.
Non, mais c'est rendu que tu peux plus faire confiance à ni ton concessionnaire, ni ton garagiste.
Malheureusement, faut bien magasiner.
Hey, Normand me recherchait chez son garage hier. Je peux le raconter, Normand, tu me l'as raconté tout à l'heure.
Ah oui, Normand est à nos garages.
C'est ça, on dit pas où, mais c'est Normand. Il dit, signé en bas, monsieur, ça devrait vous coûter autour de 550 $. Il dit, ben attendez, là, c'est quand même normal, pose des questions dans la vie, c'est un journaliste.
C'est
il dit, là, 550 $, pourquoi? Mais il dit, ça se peut que ça vous coûte pas ça, mais ça se peut que ça vous coûte ça.
OK, mais oui, je peux-tu savoir pourquoi?
Oui, c'est comme, voyons!
Tu me dis qu'est-ce que tu vas faire?
Non, signe en bas, Benoît, signe en bas.
En fait, la constatation que je fais, c'est que souvent, les garagistes, c'est pas qu'ils sont malhonnêtes, c'est qu'ils sont, hélas, incompétents. Et c'est plus facile de dire, bon, on va changer ça, ça va régler le problème, que de savoir quelle est la nuance et de régler un problème qui coûterait pas cher.
Ils savent qu'on est complètement illettrés, nous aussi, en matière de voitures.
Mais aujourd'hui...
Juste dans les marques d'auto, je vous entends tout à l'heure du CSX. Écoute, voyons, tu te dis, c'est quoi ça? On dirait des formules. Plus il y a de lettres avec des numéros...
Mais regarde, c'est pas compliqué. Fais juste prendre le segment des VUS intermédiaires. OK? Les noms sont tous pareils. un MKX, un MDX, un RX, un LX. Là, faut
RDX.
Un RDX. Et je veux dire, c'est toute la même affaire.
Dire, un XT4, un XT5.
Ouais, c'est ça.
C'est juste pour nous mêler, c'est ça que je vous dis.
C'est ça.
On va aller à la pause là-dessus. 514-790-9850, 1-866-790-9850. On parle de cette année 2018. On fait un espèce de bilan de l'année en matière d'automobile. Si vous avez des questions, vous gênez pas. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur l'industrie de l'automobile cette année?
Non, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que j'ai une TT RS Audi, là. Et ça fait 15 ans que je suis dans la TT. À peu près, j'étais une des premières, je pense, à en avoir une. Je les ai toutes eues, TT, TTS, TTRS, tout ça, cabriolet, pas cabriolet. Et là, je voudrais changer. Moi, c'est une 2013, parce que la dernière, c'était 2013.
Oui,
là, il y en a une nouvelle maintenant. J'avais commandé la nouvelle. Quand elle est arrivée, je me suis dit, bon, encore ça, ça se ressemble, tu sais. Alors, je cherchais quelque chose qui a de la gueule, puis qui serait... là, j'aimerais cabriolet parce que je passe 3 mois en Floride maintenant.
OK.
Et,
descendez-vous avec votre voiture?
Non, je la fais descendre sur...
sur un camion?
Une flotte, ouais.
Un camion. Vous la faites livrer. Ouais. Ben, ouais. C'est sûr que si vous aimez l'allemand, il faut parler de la Boxster
Est-ce que vous tenez toujours à la traction intégrale? Parce que la TT...
Ah oui. Okay. La TTRS, là, c'est la seule, c'est un camion l'hiver.
Ah oui, je suis
absolument d'accord.
TTRS, c'est une belle machine.
C'est une belle machine, puis à part ça, même en Floride, là, tu stationnes en avant à côté des Ferrari, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle est aimée, cette voiture-là, vraiment.
Elle est cute, elle est belle.
C'est une voiture qui se vend, c'est une voiture qui a eu beaucoup de succès à son arrivée, son design était original, mais Audi, c'est comme, comment je pourrais dire ça, a comme mis ça de côté.
Essoufflé.
Il y a pas là on dirait que la formule est essoufflée, qu'on trouve pas le moyen de se réinventer, même si c'est une voiture qui sur le plan technique est exceptionnelle. C'est une sportive.
Mais c'est un jouet un peu là.
Ouais, c'est un jouet. C'est une sportive aguerrie. C'est surprenant comment c'est rapide. La nouvelle TTRS c'est une véritable bombe. Là.
Combien ça coûte?
85 000.
On approche le 100 000 avec les taxes.
Ça c'est votre seule voiture, Nicole?
Oui, c'est ma seule voiture, oui. Mmh. C'est pour ça que j'aime, tu sais, c'est la seule voiture que tu peux avoir qui est sport.
Qui est à l'année.
Avoir 12 mois à l'année.
Ah ouais, absolument. Ce que je m'en allais vous dire, c'est il n'y a pas de formule équivalente ailleurs dans l'industrie.
Non.
Alors, si vous voulez une TTRS un peu jazzée, prenez-la pas blanche ou noire, prenez une couleur vive, puis amusez-vous.
Pourquoi vous voulez vendre la vôtre 2013?
C'est parce que là, j'aimerais avoir cabriolet.
Ah oui, OK.
T'as plus envie de sortir, t'as plus envie de faire du ménage quand c'est cabriolet. Oui.
Ouais.
Mais là, il y en a la petite. C'est pas les. Pas Austin, mais c'est quoi les Cooper.
Ouais. Si vous tenez à l'attraction intégrale, vous pouvez...
Mini Cooper puis Audi TT, c'est pas la même
affaire. On n'est pas en même place. Puis il n'y a pas de traction intégrale. C'est sûr que vous pourriez, par exemple, aller chercher une BMW de série 4 cabriolet, des trucs comme ça, une Audi S5 cabriolet. Mais là, vous grossissez, c'est plus le même genre de voiture.
Pour avoir
l'attraction intégrale, là, dans le genre que vous avez, il n'y a pas d'autre option.
Il n'y a pas d'autre option, honnêtement.
Puis vous, l'environnement, Nicole, vous en pensez quoi? Le pacte, tout ça?
Garde, il en parle beaucoup que c'est pas mieux les voitures électriques, là, aussi. Je sais pas, mais...
Ouais, on a lu un peu de tout, là. Il y a eu des reportages. Ouais. Je sais que Thomas Gerbet a fait beaucoup parler de lui à Radio-Canada. Il avait fait un reportage qui disait que finalement, la voiture électrique est aussi polluante, sinon plus polluante, la voiture à essence, là, évidemment.
Exact. J'irais pas jusqu'à dire ça, là.
Non, mais évidemment, tous les gens reliés aux voitures électriques ont fait une montée de lait, là. Mais... il y a du pour et il y a du contre, effectivement.
Il y a une Porsche qui sort aussi l'année
prochaine. Oui, la Taycan.
Ouais.
Ouais, Porsche Taycan. J'ai donné 1 000 là, pour la réserver, mais j'ai aucune idée le prix que ça va être. Et je ne sais pas.
Et comme ça ne sera pas 299 par mois, ça, je vous le garantis.
Non, les modèles de base vont se vendre autour de 100 000 aux États-Unis. Fait qu'il faut voir ici à combien on doit s'attendre, mais il n'y aura rien en bas de 100 000, c'est sûr.
Merci, Nicole.
Merci, Nicole.
Mais c'est sûr, Antoine, toi, tu dis si on veut être vraiment vert, on garde notre voiture.
On ne
se met pas à magasiner d'autres choses.
Cette année, là, pour la première fois, et je suis tellement content de le constater, les ventes ne sont plus en augmentation.
Voilà. Ça a même baissé, et moi, j'ai des chiffres là-dessus. Là.
Benoît et moi recevons chaque mois, le premier du mois, des communiqués de presse de tous les constructeurs qui nous annoncent toujours des records de ventes par rapport à l'année passée.
Ça fait 10 ans qu'on
Ils ont toujours une façon de nous jazzer ça. Mais là, cette année, là, l'exercice est plus pénible parce que c'est pas vrai que les ventes sont en hausse.
Et non, même que les ventes d'automobiles ont baissé de 7,4% en septembre au Canada.
Ouais.
C'est beaucoup, là. Ils disent que c'est le chiffre de vente le plus bas pour un mois de septembre depuis 2014.
Ben, on avait
ça, c'est les chiffres qu'on avait en octobre. Exact. Je sais pas si vous avez eu ceux de novembre, vous.
Ils sont rentrés. Oui, oui, j'en ai à la maison. C'est en baisse aussi, peut-être un petit peu moins marqué. Mais ce qu'il faut constater, c'est que on a fait du rattrapage pendant un certain nombre d'années. Après la crise aux États-Unis en 2009, les années 2010-11 ont été des années catastrophiques au niveau des ventes. Aux États-Unis, là, ils se vendent 16,5 millions puis 18 millions de véhicules par année selon les années. Une très bonne année, c'est 18 millions. Une moins bonne année, c'est 16. Au Canada, on est entre 1,3 pour une moins bonne année puis 1,7 millions pour une très bonne année. Alors, on est tombé dans les 10, 11 millions aux États-Unis. Donc, il y a eu du rattrapage qui s'est fait à partir de 2012. Là. 2012, 13, 14, 15, même 16, ça a été là. C'est là, Antoine a parlé, là, on recevait des mois records par-dessus mois records parce qu'on compare toujours le mois de cette année au même mois de l'année d'avant. Fait que quand tu étais dans des années difficiles, ben ton record n'est pas dur à battre. Sauf qu'on avait prévu l'année passée, on a dit, bon, le rattrapage est fait, puis on est dans un marché mature. Donc, les parts de marché qu'on va chercher, c'est pas pour du nouveau marché. On le prend au dépens d'un concurrent.
Oui, c'est ça.
Ouais. On a, Carolina est avec nous, elle vient de s'acheter une Toyota. Vous allez la voir demain, apparemment, Carolina?
Oui, c'est une... Bonjour.
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 Une Toyota Prius que j'ai, ben c'est la branchable, donc
la Prime.
C'est ça, la Prime. Puis je vais la chercher demain. Moi, mon conjoint, il y a déjà une Hyundai Ioniq.
Ok.
Ok.
Tu sais, nous autres, des fois, on tu sais, ça fait des années qu'on dit que les voitures électriques s'en viennent, tout ça, puis que ça a pris un peu de temps quand même. Puis moi, je sais pas si c'est comme une campagne de salissage contre les voitures électriques, là, mais moi, je pense que je vais moins polluer que bien des gens. Puis, savoir, par rapport à la Ioniq, est-ce que, tu sais, juste pour l'écœurer un peu, est-ce que c'est une meilleure voiture?
Ben, c'est-à-dire, vous allez avoir une voiture, honnêtement, la Prius...
est meilleure que la Ioniq, c'est ça qu'elle aimerait que tu dises.
Elle est plus confortable, elle est
plus spacieuse. Pour qu'elle aille baver son chum.
OK, c'est ça, là,
je vous ai compris, hein, Carolina. C'est ça, entre filles, on se comprend, tu sais.
Ben, si j'avais à choisir entre les deux, la réponse est oui, je prendrais la Prius.
Bon, yes!
Pas pour le look, mais pour l'espace, le confort, la commodité et la consommation, parce qu'une Prius Prime va rouler, bon, à peu près 25 km en mode 100% électrique.
27, si t'es chanceux.
L'hiver, on va être à 15-16. Puis après ça, bon, on va rouler à du 3,5-4 litres au 100. Donc, c'est dur à battre.
Alors
pour une
que la Ioniq...
Ben, la Ioniq, en essence, je veux dire, une Ioniq hybride va rouler à peu près à 4,2, 4,3 au 100, ce qui est quand même très bien. Mais c'est une voiture un peu plus petite, un peu moins stable sur l'autoroute, peut-être un peu moins confortable. Mais je vous dirais, là, on est à 80-85% de la vérité de la Prius avec une Ioniq.
Mais quand même.
C'est pas, y a
tu
pas
viens de faire sa journée,
là-dedans.
Je pense. Carolina, vous allez pouvoir baver votre chum puis dire « ma voiture est meilleure que la tienne ».
Et le vendeur qui va vous la livrer demain va vous dire « je vous l'avais dit, hein? » C'est ça.
Est-ce qu'elle est là, Carolina, toujours?
Ben oui, je suis là.
Donc, ça fait votre journée?
Oui, je suis très heureux.
Bon.
Merci, on va à la pause là-dessus. On a Danny avec nous, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Moi, je fais une histoire courte. J'avais un F-150 avec un moteur 5.4 Triton.
Quelque chose d'économique. Oui, oui, oui.
C'est ça, il me coûtait environ 450 $ d'essence par mois. Et puis, je me suis séparé. Et puis, il a fallu que je réorganise mes finances. Donc, je l'ai vendu. Mais, et puis là, maintenant, j'ai une Kia Forte 5. Là. Donc,
On
n'est pas en même place dans le budget.
Méchant changement.
Ça remorque un peu moins, mais...
Ouais, ben, exactement. Mais là, j'haïrais pas ça.
Ça, c'est drôle.
Je suis pas certain, mais j'haïrais peut-être... J'irais peut-être pas m'en acheter un autre. Donc, je voulais demander conseil aux chroniqueurs là, pour une camionnette, je dirais, fiable et qui est...
Antoine, là, ce que vous me dites, c'est que les gars à job vous traitent de gars divorcés parce que vous êtes passé d'un F-150 à une Forte. Là. Ça ressemble
non,
à ça.
Ça te parle, ça, Antoine?
on pourrait dire ça, mais non, c'est pas le cas. Là. C'est plutôt parce que j'avais une remorque fermée d'environ 900 livres. Que je tirais avec mon camion, mais maintenant, je la tire avec ma Forte. Ça tire, mais c'est borderline.
Hey, on s'entend. Faut pas vous mettre rien dans la remorque.
Ah, c'est du stock de camping, des vélos que je trimballe.
OK. Une Forte à 23 litres au 100, vous en avez trouvé une. Écoutez.
Qu'est-ce que tu suggères, Antoine et Benoît? Qu'est-ce que vous suggérez?
Vous regardez pour une camionnette intermédiaire ou un plein de grandeur?
Ah, ça me dérange pas. En autant que, je dirais, mes deux critères importants, fiable et, si possible, qui roule à 10 litres et moins au 100.
Si à 10 litres et moins au 100, vous n'avez pas le choix d'aller dans un diesel. En fait, ouais. Sinon, je vous dirais que Allège, un F-150 2,7 litres EcoBoost va se tenir autour de 10 litres au 100, mais là, je dis bien Allège.
Ouais,
puis
voilà.
En certaines conditions, vous allez plus être autour de 12. Mais tout dépend de votre budget, parce que là, si vous allez dans un diesel, vous êtes minimum à 50 000 pour n'importe quel type de camionnette diesel, que ce soit un GMC Canyon ou un Ram Eco-Diesel qui n'existe plus momentanément.
Ouais.
On va revenir avec un Eco-Diesel prochainement. Ford a un F-150 diesel, mais c'est absolument hors de prix.
C'est 75
000. C'est ça, facilement. Oh. Donc, l'option, c'est peut-être de vous diriger vers une camionnette intermédiaire à moteur V6 qui va rouler à 12 litres et demi au 100.
Ouais.
Et là, l'option, actuellement, ce que vous avez comme choix, c'est soit la camionnette Toyota Tacoma ou vous avez le GMC Canyon Chevrolet Colorado. Puis va arriver prochainement le Ranger que Benoît a roulé cette semaine.
Voilà, je suis arrivé de là hier et honnêtement, c'est assez impressionnant. C'est un 4 cylindres 2,3 litres turbo. C'est un moteur EcoBoost, mais qui peut tirer 7500 livres. Je parlerai pas d'impression de conduite. Il y a un embargo jusqu'à mardi prochain.
Mais ça a l'air de quoi?
Pour vous dire, c'est généralement...
Benoît m'a dit, sous le couvert de la minima, que ça allait pas pire.
Non, ça va être un modèle intéressant à considérer. Et nous, évidemment, on le fait à l'aise. Là. On a traîné un bateau pendant quelques kilomètres pour voir comment ça traînait. Mais on s'est tenu en bas de 10, à l'aise, avec le 4
cylindres. Sur des routes californiennes.
Sur des routes californiennes où
etc.
il fait beau.
Ouais, c'est pas ici.
Donc,
ça.
Mais quand même, c'est un intermédiaire.
Comment
intéressant.
Comment tu l'appelles?
Le Ranger.
C'est le Ranger.
Nouveau Ford
okay.
Ranger.
Le nouveau
qui
Ford
revient,
Ranger.
Okay. Il revient là.
Là, on parle de prix bientôt. De entre 30 et 48 000 sans option.
30 à 42 000. T'as trois modèles. T'as un XL, XLT, Lariat. Lariat arrive en cabine double, le crew cab qu'on appelle en anglais. T'as 42 000. Tu prends l'option FX4, c'est 1400 plus.
Puis là, rajoute quelques bébelles. Tu vas monter ça à 50 000 facilement.
Mais monsieur, pour avoir un XLT, cabine double, équipé dans le sens du monde, là, correct pour en bas de 40.
Ouais.
Voilà. Alors, voilà pour vous. Merci. Alain, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Moi, j'ai regardé pour un Kia Sportage, 31 008 avec les taxes, entrée de gamme.
Ouais.
Et puis 5 ans de garantie. Est-ce que c'est un bon choix?
Oui. Vous parlez d'un LX 4 roues motrices.
Oui, c'est ça. C'est deux roues motrices.
Deux roues motrices.
Oui,
okay,
c'est ça.
Là,
oui.
Ça c'est, on parle de tout inclus. Là. Ben, c'est un super bon produit. Moi, je vous dirais que ça vaudrait la peine de prendre le 4 roues motrices.
J'allais dire la même chose.
Pour la raison suivante, c'est que, bon, vous allez payer approximativement 2 000 $ de plus à l'achat, mais ce 2 000 $-là, vous allez le récupérer à la revente, même si vous le revendez dans 5 ans. Et je vous garantis que vous allez apprécier les 4 roues motrices sur ce véhicule-là, parce que en 2 roues motrices, il y a un effet de coupe que moi, je trouve un peu désagréable. Le véhicule patine, tasse de gauche à droite un petit peu en 2 roues. Et t'as un système anti-patinage qui est très intrusif là-dessus. Alors, le problème se règle de lui-même avec les 4 roues motrices. Et la consommation d'essence, elle n'est que de 0,2 litres au 100
de plus c'est
qu'avec
combien?
Un 2 roues.
Ça consomme combien, ça?
Vous êtes à 9 litres et demi au 100, à peu
Donc,
près.
Faites une moyenne à 10, là, puis vous êtes pas pire. Là. C'est un 4 cylindres.
C'est un très bon produit, puis la garantie est là. C'est vraiment un produit que j'ai bien aimé.
Le système Dynamax, le 4 roues motrices Dynamax, c'est un très bon système.
Tu l'achètes ou tu le loues? Toujours la maudite question.
Kia, c'est toujours la même question, hein, parce que Kia, c'est la compagnie. C'est drôle de dire ça, mais c'est la compagnie un peu mal aimée de l'industrie pour les valeurs résiduelles.
Ouais.
Parce que c'est le dernier constructeur sérieux à être débarqué ici au Canada.
Mm-hmm.
Et le jour où il va y avoir un constructeur chinois qui va débarquer ici avec une nouvelle marque, je suis persuadé que Kia va crier de joie parce qu'on ne sera plus les derniers à être arrivés avec des valeurs résiduelles qui sont trop basses pour ce que c'est. Parce que ces véhicules-là, c'est la même qualité qu'un Hyundai, mais les valeurs de rachat sont toujours plus basses pour absolument aucune raison. Et malheureusement, à cause de ça, Kia a de la misère à louer ses véhicules.
Ouais.
Donc, c'est toujours plus avantageux de les acheter. On le voit actuellement avec la superbe Kia Stinger qui ne se vend pas.
Ah non, ben
parce
non.
que les acheteurs d'une berline de 45-50 000 $ veulent louer la plupart du temps, puis on n'est pas capable d'être agressif.
Les valeurs ne sont pas là.
On va se revoir en début d'année, messieurs, parce qu'il y a des salons de l'auto.
Absolument. Détroit, qui est la dernière, pour la dernière fois, sera en janvier. On va tomber en juin à partir de 2020. Puis évidemment, à Montréal, Toujours la même rengaine.
Nouveauté.
La Supra, la nouvelle Toyota Supra.
À Détroit, mais à Détroit, il n'y aura pas grand monde cette année. Hein. Tous les voitures exotiques ne sont pas là. Il n'y aura pas de Mitsubishi, pas de Volvo, pas de Mazda. Mazda, on sait qu'il n'était pas sûr d'être là. On investit de plus en plus dans des lancements et moins dans les salons parce que les budgets ont été coupés. Ça, c'est une autre réalité de l'automobile. Là.
Mais au Salon de l'Auto de Montréal, tout le monde va être là. Oui. Benoît et moi aussi, d'ailleurs.
Oui, absolument.
Alors, on viendrait nous rendre visite sur place.
Et vous faites un Facebook Live déguisé en Père Noël la semaine prochaine?
Lundi prochain, 19h, sur ma page Facebook, Antoine Joubert, chroniqueur auto. Venez visiter ça.
Benoît Charest sera là.
On va avoir des déguisements spéciaux.
Merci.
Et,
beaucoup de fun à parler de voiture avec vous.